Nous restons debout pour louer Dieu, pour cet éclat de lumière qui transperce les ténèbres dans lesquelles nous pourrions errer sans fin, pour cette senteur de bonheur qui traverse les effluves les plus lourdes de nos arrière-cours, pour ce goût de la vie qui persiste par-delà la fadeur des désillusions et des remords, pour cet effleurement de tendresse sur nos rides, sur nos blessures, sur les bleus de notre âme, pour cet écho de ta parole qui résiste dans la cacophonie de nos contradictions, et pour le sens donné à nos existences de grâce en bénédiction, loué sois-tu, ô notre Dieu. Amen. Et je vous invite à chanter au cantique 264, rempli d'amour et de reconnaissance. Nous commencerons par chanter les trois premières strophes. Je vous invite à vous asseoir. Nous nous tournons vers Dieu dans la prière pour nous présenter à lui tel que nous sommes. Quand le cœur est dur et desséché, viens et fais pleuvoir sur moi une averse de compassion. Quand la vie sera cornée entre peur et méfiance, viens dans une onde de grâce. Quand le tapage et le tumulte deviennent trop assourdissants et m'isolent de l'essentiel, viens dans un souffle de paix, viens dans le repos. Quand mon cœur mendiant se tapit, accroupi dans un coin, pousse la porte et entre, ô mon Dieu. Quand l'esprit est aveuglé, et voilé de douleur. Ô toi, viens, viens, éclaire-moi de ta lumière. Amen. Thank you. invite à vous lever pour entendre l'annonce de la grâce. L'Éternel a vu le peuple, esclave en Égypte, le paralysé sur sa civière, Ésaché perché dans son arbre. Il nous voit prisonniers, malheureux, douloureux de bien des tabous, esclaves de bien des habitudes. L'Éternel a conduit le peuple à travers la mer Rouge. Il a fait lever le paralysé, il a rendu Zaché aimable. Vers nous aussi, il vient. Il vient en Jésus-Christ, il nous fait nous lever et il nous conduit aussi vers une vie nouvelle. Amen. Et je vous invite à chanter au cantique 264, la quatrième strophe. Place. Dieu s'adresse à notre monde, à tout le monde. Mais les seules voix qu'entendent nos prochains, ce sont nos voix fraternelles qui disent des paroles essentielles. Dieu fait route avec tous les humains. Mais les seuls compagnons que connaissent nos prochains sont nos présences fraternelles qui partagent avec eux pluie, vent, soleil. Dieu aime les humains, mais les seules mains qu'éprouvent nos prochains sont nos mains fraternelles qui étreignent, consolent, accompagnent. Dieu offre au monde nos voix, nos présences, nos mains et devient par nous présence pour tous. Voilà. Et en restant assis, je vous invite à chanter la cinquième strophe du cantique 264. Avant de lire dans la Bible, nous prions. Par ton esprit, ô notre Dieu, ouvre nos esprits. Et par ta parole, parle-nous, afin que nos vies tout entières te répondent dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Amen. C'est un tout petit texte que je vous invite à entendre aujourd'hui, un tout petit texte du livre de la Genèse dans l'histoire d'Abraham, quand il s'appelait encore Abraham et pas Abraham. Trois petits versets dont je dirai tout à l'heure dans quel contexte il se situe. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham en disant « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut qui produit le ciel et la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui t'a livré tes adversaires. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Melchisédek, roi de Salem. Il surgit comme ça, d'un coup, dans le texte de la Genèse, et il disparaît tout aussi soudainement. À peine 3 petits versets. Très bref, très fulgurant. Mais les traditions juives et chrétiennes ont beaucoup ajouté à ces 3 petits versets. Beaucoup d'interprétations, beaucoup de précisions. Pourtant, dans la Bible, Melchisédek n'est cité que 2 fois, en plus de ce passage de la Genèse. Il est cité dans le psaume 110, dans les Écritures hébraïques. Il est dit « Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek ». Dans ce psaume 110, c'est l'Éternel qui s'adresse au roi. On considère ce psaume comme un psaume royal, pour le sacre d'un roi. Mais il est chanté à Jérusalem au moment de la fête des tentes, pour rappeler les promesses messianiques, pour parler du Messie attendu. Alors, tu es prêtre à la manière de Melchisédek ? Eh bien, c'est une manière d'ancrer cette prêtrise du roi attendu. C'est une manière d'ancrer cette prêtrise dans une précédence par rapport aux prêtres d'Israël, ceux dont il est question dans l'Ancien Testament, qui sont tous issus de la tribu de Lévi. C'est la loi. La tribu de Lévi, des 12 tribus d'Israël, c'est d'elle que sont issus tous les prêtres. D'ailleurs, cette tribu n'a pas de territoire. Son territoire, c'est le service de l'Éternel. Or, le Messie attendu devait être de la tribu de Juda et pas de la tribu de Lévi. Mais pour qu'il soit prêtre, il est ainsi rattaché à la prêtrise de Melchisédek qui surgit et qui vient dans le livre de la Genèse bien avant les 12 tribus que l'on connaît. Le psaume 110 a lui été interprété puisqu'il parlait du Messie de manière très christologique dans le Nouveau Testament. Jésus est le Messie, le Christ annoncé à la fois roi et prêtre, et pour toujours. Et c'est dans l'Épître aux Hébreux qu'on trouve d'autres mentions de Melchisédek, l'Épître aux Hébreux qui cite le psaume 110, donc vous voyez, on se situe dans une continuité. L'Épître aux Hébreux cite le psaume 110, mais l'amplifie en revenant longuement sur cette prêtrise de Melchisédek, instituée par Dieu lui-même et qui n'est pas raccordée à la loi. Prêtre pour toujours, et même, dit l'Épître aux Hébreux, sans commencement non plus, donc depuis toujours, parce que aucune généalogie du roi de Salem n'est mentionnée dans la Genèse. Il vient comme cela. Alors après le Nouveau Testament, pour nombre de pères de l'Église, et pour nombre de théologiens, et par exemple Jean Calvin, qui a écrit tout un commentaire de l'Épître aux Hébreux, Melchisédek et la préfiguration du Christ. Mais il me semble que ces 3 petits versets de la Genèse disent cependant en eux-mêmes beaucoup de choses, et que cette rencontre inopinée entre Abraham et Melchisédek nous donne beaucoup de raisons d'espérer et nous donne beaucoup de ressources pour nos propres rencontres humaines. La première chose qu'il faut remarquer, c'est qu'Abraham et Melchisédek auraient pu ne pas s'entendre du tout. Il faut que je vous explique le contexte de cette rencontre que nous avons lue. Vous savez, Abraham est un nomade. Il va d'étape en étape, il n'est jamais chez lui. Il ne s'installe nulle part, il ne s'inscrit pas dans aucune histoire d'un des clans ou d'un des peuples qu'il en vient à rencontrer au cours de ses déplacements. En plus, Abraham est riche et puissant. Il possède beaucoup de troupeaux, beaucoup de serviteurs. D'ailleurs, Abraham, le nom lui-même, c'est un nom prestigieux. Abraham signifie « père très haut ». C'est un nom pour dominer. Alors, nomade, riche, avec un tel nom, il y aurait là bien des raisons de se méfier d'Abraham ou de quelqu'un qui lui serait semblable ou aurait au moins une de ces 3 caractéristiques. Mais qui plus est, Abraham, en cette occasion, est en plus un chef de guerre victorieux. Abraham s'étant trouvé entraîné dans un conflit entre plusieurs rois aux alentours, 9 rois. Lui n'a déclaré la guerre à personne. Mais son neveu Lot, qui s'était séparé d'Abraham quelque temps auparavant, Lot était allé s'installer, il l'avait choisi, il était allé s'installer sur le territoire du roi de Sodome. Et ce roi-là, le roi de Sodome, a été entraîné dans le conflit des 9 rois et il a été battu. Donc ceux qui l'avaient vaincu, eh bien, ont emmené en captif tous ses biens et nombre de personnes vivant chez lui, dont Lot. Abraham averti, a armé ses serviteurs les plus forts, les plus vaillants, et il est allé mener campagne contre les rois qui avaient vaincu le roi de Sodome. Vous suivez, enfin, sinon vous pourrez le lire. Hein. Et il a remporté la victoire. Il a donc libéré son neveu Lot et s'est emparé d'un très important butin. Non seulement tout ce qui appartenait au roi de Sodome et qui avait été emporté par les vainqueurs du roi de Sodome, mais il a aussi emporté tout ce qui appartenait aux vainqueurs du roi de Sodome. Vous suivez toujours. Et c'est à ce moment-là que surgit Melchisédek, qui lui n'avait pas pris part à la guerre. Le roi de Salem aurait bien eu des raisons de se méfier d'Abraham. Il aurait eu des raisons de gouverneur, de roi, de rentrer en guerre contre lui, suivant l'adage bien connu que la meilleure défense, c'est l'attaque, quand on voit arriver quelqu'un de riche, de puissant, de nomade, de bien armé, etc. Ou le roi de Salem aurait pu se dire « négocions, passons un traité pour éviter les ennuis ». Eh bien, pas du tout. Melchisédek, dont le nom signifie « roi de justice », est roi de Salem, peut-être Jérusalem, peut-être un territoire autour de Jérusalem. Mais surtout, le roi de Salem est roi de paix. Salem, la paix. Il est aussi prêtre du Dieu Très-Haut, un Dieu dont on nous dit qu'il est créateur, qu'il a fait le ciel et la terre. Et nous pouvons alors penser que pour ce Dieu Très-Haut, parce que ce Dieu Très-Haut tient justice et paix comme fondement du monde qu'il crée. Dieu Très-Haut, ce n'est pas avec ce titre qu'Abraham invoque le Dieu qu'il a appelé quand il était dans la maison de son père et qu'il a mis en route. Le Dieu qu'il a appelé, c'est celui dont le nom est imprononçable, celui nom qui s'écrit avec 4 lettres, le tétragramme, que les versions secondes, les versions protestantes des traductions de la Bible rendent en écrivant « Seigneur » en petites majuscules dans le texte. Ce nom imprononçable est remplacé à la lecture dans la piété juive et la piété des Hébreux par le mot « Adonai » qui signifie « maître ». Et dans le livre de la Genèse, Dieu est aussi appelé « Elohim » qui est à strictement parler une forme plurielle, les dieux. Il est encore d'autres noms pour parler de Dieu dans le Premier Testament. Et je vous rappelle que Dieu n'est pas un nom, c'est un mot. Par exemple, Tsebaot, Dieu des armées. Celui-là a eu beaucoup de succès. Quand on oublie que les armées dont il est question sont les armées célestes et pas les armées humaines, malgré la propension des croyants à enrôler Dieu sous leur bannière respective. Dieu appelle aussi El Shaddai, Dieu puissant, Dieu des montagnes, El Roy, Dieu qui voit, et beaucoup d'autres combinaisons du mot El qui signifie Dieu, avec un qualificatif de lieu, d'un attribut de pouvoir, de puissance. Le Dieu d'Abraham, le Dieu qui a appelé Abraham à vivre de confiance et d'espérance, Abraham le connaît, lui, comme Dieu de la vie. Dieu pour une vie de confiance, même dans les épreuves. Dieu pour l'avenir de la vie, avec la promesse qui lui a été faite d'une descendance. Mais quand on lit l'histoire d'Abraham, on voit bien à quel point il est lui-même un homme juste. Avec son neveu Lot, qu'il a laissé choisir le territoire où il voulait s'installer quand il a fallu se séparer. Avec le roi de Sodome, celui-là qui a été vaincu, Abraham rendra tous ses biens au roi de Sodome, il ne gardera rien, alors qu'il en avait le droit. Abraham sera juste aussi avec les Hittites, quand il voudra leur acheter un champ pour ensevelir le corps de sa femme. Abraham n'humilie personne. Il est aussi un homme de paix, qui évite les conflits et les destructions autant qu'il le peut. L'homme qui prie afin que Sodome et Gomorre ne soient pas détruites au cas où il y aurait quelques hommes justes y résidant. Et nous lisons dans bien d'autres écrits de la Bible que des prophètes parlent du Dieu d'Abraham comme insistant sur la nécessité de la justice dans les relations humaines, insistant sur la paix comme plénitude et harmonie profonde au-delà de ce que les humains peuvent voir dans la nature, au-delà même de ce que les humains peuvent mettre en œuvre de non-violence dans leurs interactions. Le Dieu de Melchisédek, Dieu très haut et créateur, Dieu universel, Dieu de justice et de paix, ressemble beaucoup au Dieu d'Abraham, le Dieu qui appelle à la vie, pour la vie, celui qui survient quand on pense que la vie n'est plus possible, un Dieu d'espérance et d'avenir. Oui, le Dieu d'Abraham est aussi le Dieu très haut de Melchisédek. Mais c'est toute une affaire qui prend souvent plus que le temps de lire 3 versets, de reconnaître la manière dont les autres nomment leur Dieu et de pouvoir reconnaître que ce Dieu peut être aussi le nôtre. Donc Melchisédek, au nom du Dieu très haut, vient vers Abraham, lui offre pain et vin en partage et le bénit. Il vient vers lui, il s'approche. Cela n'a l'air de rien parce que ces verbes sont si communs, si courants, si ordinaires. Mais venir vers quelqu'un, s'approcher de lui, cela indique que sont écartés les peurs et les préjugés, les intérêts particuliers et les calculs. Cette venue, cette advenue de Melchisédek parle aussi du Dieu très haut. Très haut, mais pas très loin. Le Dieu très haut n'est ni absent ni indifférent. Et nous pouvons penser aussi au Dieu de Jésus-Christ, se liant à l'humanité de la crèche à la croix pour la résurrection de tous. Melchisédek offre du pain et du vin. Nous ne savons pas ce que ce geste signifie exactement pour lui. Pain et vin peut-être comme signe, comme offrande de justice, de paix. Pain et vin partagé, nous pensons tout de suite à la scène, à l'alliance nouvelle en Jésus-Christ, une alliance toujours nouvelle, toujours vivifiée pour la vie des humains. Nous pouvons lire dans l'offrande de pain et de vin de Melchisédek une offre de convivialité et d'hospitalité. Et cela n'est pas juste une politesse. Cela veut dire, nous habitons la même terre. Nous habitons le même monde. Et ce monde tient comme un monde habitable seulement si le monde commun est partagé. Seulement si le monde où chacun reconnaît et acquiesce à la présence de l'autre tel qu'il est. Seulement si ce monde est bâti sur la justice et sur la paix. Enfin, Melchisédek bénit Abraham. Il le bénit, il ne le regarde pas comme un inférieur, il ne le regarde pas comme un adversaire, Il le regarde avec un élan de confiance, dans une onde de paix. Melchisédek béni, celui en qui tous les clans, familles, nations de la terre seront bénis par Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu très haut. La bénédiction, ce n'est pas quelque chose que l'on garde pour soi. La bénédiction, c'est le commencement d'une dynamique, d'une circulation. Elle oriente la personne bénie vers les autres jusqu'à l'universalité. L'universalité qui est la dimension de la promesse faite à Abraham. Bénir, dire à quelqu'un qu'il est bon qu'il soit là, engage celui qui le bénit à se comporter en conséquence, en proche, en ami. Jésus-Christ n'a eu de cesse de faire passer la bénédiction de Dieu aux uns et aux autres sans souci d'aucune frontière que ce soit. Alors Abraham verse la dîme de son butin à Melchisédek. Non comme une soumission, parce qu'Abraham écoute seulement Dieu. Mais c'est plutôt comme une réponse, un engagement dans la communion, dans l'alliance offerte par Melchisédek. Une réponse de gratitude à la bénédiction reçue. Et voilà pourquoi, chers amis, il y a dans ce récit beaucoup d'espérance pour les croyants. Celle d'aller à la rencontre de l'autre, comme celle de se laisser approcher par l'autre. Celle de donner à l'autre pain et vin ou autre chose, et celle de recevoir de l'autre. Celle d'être béni par l'autre et celle de le bénir. Et que justice et paix soient la part de tous dans un monde d'hospitalité et de convivialité où les uns et les autres vivent ensemble. Il arrive bien quand même que dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos existences, passe une soif de paix, une faim de justice, la joie d'être vivant avec d'autres, même différents. Une certaine idée du monde comme monde commun où vivre ensemble. Puissions-nous accueillir ces moments de grâce afin qu'ils ne disparaissent pas trop vite, pas du tout, dans les tumultes du monde. Afin qu'ils nous permettent d'ajuster nos rencontres, nos dialogues, dans l'esprit de la rencontre de Melchisédek et d'Abraham, afin que ces moments de grâce raffermissent la confiance en ce Dieu qui ne se laisse enfermer dans aucun nom et qui nous appelle à devenir des hommes et des femmes de bénédiction. Amen. Je vous invite à vous lever pour confesser notre foi avec la confession de foi du foyer de l'âme, celle de cette église. Je crois en Dieu, notre Père, il est amour. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il a souffert, il est mort. Présent dans nos vies, il nous pardonne. Il nous montre le chemin. Il est la lumière du monde. Son règne dépassera le temps. Malgré notre faiblesse, je crois que Dieu place sa confiance en nous. Je crois qu'en Jésus-Christ, Dieu est l'espérance des hommes et l'homme est l'espérance de Dieu. Je crois en l'Esprit présent au monde et au cœur des hommes. L'Esprit donne la paix à tous les hommes. L'Esprit de Dieu crée et recrée la vie et le monde, le dynamise et le conduit vers le royaume. Je crois à la communion de tous dans la foi, l'espérance et l'amour. Je crois à l'amour plus fort que la mort. Je crois à la vie éternelle. Amen. Et je vous invite à chanter au cantique numéro 242. Et nous le chantons en entier. Voici le moment de partager quelques annonces. Alors, je vais peut-être demander à Coexister de venir nous dire quelques mots sur son action, sa raison d'être.
Simplement deux mots. Coexister, c'est un mouvement de jeunes, 15 à 35 ans, organisé par les jeunes et pour les jeunes, qui cherche à créer du lien entre des personnes de convictions différentes. Donc, il y a des croyants de toute religion, mais aussi des athées, des agnostiques. En fait, on reflète la société française dans son ensemble. Et l'objectif est de créer des liens, des amitiés, dans un esprit de sincérité, c'est-à-dire ni syncrétisme, ni prosélytisme, simplement mieux se connaître pour mieux vivre ensemble. Alors, ça passe par des événements de dialogue, des visites de lieux de culte, des soirées débats dans des cafés, des moments de formation, mais aussi des actions de solidarité. On a l'envie de faire des choses ensemble, et notamment auprès des sans-abri ou donner son sang. Voilà, des événements qui ont lieu toutes les semaines. À Paris, le groupe de coexister existe depuis 10 ans. Se réunit toutes les semaines pour un ou deux événements. Et voilà, chacun est le bienvenu. Les informations passent surtout par les réseaux sociaux, puisqu'on s'adresse aux jeunes. Il y a aussi une newsletter. Et si ça vous intéresse, je pourrai vous en parler davantage à la fin de ce culte. Je suis moi-même membre de l'oratoire, et donc je viens en ami.
Voilà, donc nous pourrons parler avec Gustave et ses amis après le culte, puisqu'ils vont rester un peu ici pour découvrir le temple, ce lieu particulier que j'essaierai de leur expliquer un peu la façon, ce qu'il signifie, ce qu'il représente, ce qu'il induit aussi avec cette architecture particulière. Voilà.
Merci pour votre accueil.
Merci d'être venu. Alors, d'autres annonces, donc voilà, je n'ai pas besoin de dire que c'est la fête de l'amitié, cela se voit, cela doit se sentir aussi, ça va commencer à se sentir grâce à nos amis malgaches qui préparent un repas pour midi. Merci à eux pour ce repas, pour le stand qu'ils ont installé et qui est, comme tout stand ici, au bénéfice de la paroisse et de l'entraide, de l'association d'entraide. Merci à tous ceux qui, depuis plusieurs semaines, s'occupent de préparer cette manifestation. Je dois dire que je suis extrêmement impressionnée, émue aussi de voir combien de personnes se sont mobilisées, combien de temps, d'énergie, de discours, d'organisation il a fallu pour en arriver à ce week-end, des personnes qui viennent de loin exprès pour retrouver des amis, pour découvrir des amis. Et vraiment, je trouve ça tout à fait merveilleux, magnifique. Et oui, cette fête porte tellement bien son nom que... on la répétera, on la répétera et on la répétera encore. Hein? Après, eh bien, les semaines reprendront leur cours. Et particulièrement pour la semaine prochaine, il y aura le 28, jeudi 28, la réunion du groupe œcuménique qui serait ici, réunie ici de 19h à 21h. Je vous rappelle que je suis toujours la seule protestante dans ce groupe. Vendredi 29, c'est le groupe Théo et Psycho qui se réunira dans la salle du second aussi. Nous lisons depuis le début de l'année un des livres de Marie Balmary, Le sacrifice interdit, et nous attarderons plus particulièrement vendredi sur le chapitre concernant la tour de Babel. Je crois que c'est le troisième chapitre de ce livre. Samedi 30, In Extremis au mois de novembre, c'est le groupe Évangile et Liberté qui se réunira à 10h30 dans la salle du second également, et nous lirons dans le numéro d'Évangile et Liberté du mois d'octobre le petit article d'Henri Persoz. Voilà. Et puis samedi 30 à 19h30, ici, il y aura également un catéchisme, le caté pour les jeunes de dernière année, ceux qui sont avec moi, les jeunes confirmants. Donc de 19h30 à 21h30. Et dimanche prochain, c'est un culte aussi un peu exceptionnel, puisque dimanche prochain, c'est le 1er décembre et que c'est la journée mondiale contre le sida, qui organise beaucoup de manifestations avec les associations de lutte contre le sida et de soutien aux malades du sida. Et nous accueillerons pour le temps du culte quelques-unes de ces associations. Vous en avez été prévenus dans le bulletin du mois de novembre avec un article de Jean-Paul. Nous accueillerons ces associations. Il y aura donc un culte avec des témoignages, avec donc voilà une participation de membres de ces associations. C'est aussi le premier dimanche du mois, dimanche prochain, donc ce sera le dimanche de la cantate à 17h30 ici, et puisque ce sera possible, nous chanterons aussi au cours du culte le cantique associé à la cantate. Et puis notre ami Freddy a aussi annoncé que le produit de la collecte de la Cantacte serait donné aux associations de lutte contre le sida qui seront là le dimanche matin. Voilà, donc une journée toute liée aussi d'amitié et de soutien. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Surtout, profitez bien de la journée ici, le repas et toute la fête et toute l'amitié qui passe, c'est magnifiquement sensible et perceptible. C'est maintenant le moment de l'offrande. Je vois que Marie-Catherine est déjà partie. Romarie, c'est aussi à toi. Et cette offrande, sert à notre paroisse à remplir sa mission. On chante pendant l'offrande. Heureusement que vous êtes là, Nicole. Et nous allons chanter le cantique 272. Nous le chantons en entier. Prenez place. Nous nous rassemblons dans la prière d'intercession. Notre Dieu, nous nous tournons vers toi dans la prière. Et c'est une manière de faire place en nous à d'autres que nous-mêmes. De faire place à toi, toi qui surgis si souvent de manière inattendue. De faire place à toi dont l'esprit nous transforme en être humain au fil des jours, au fil des circonstances. Au fil des rencontres. Dieu de paix et de justice, aide-nous à orienter nos pensées, nos actes, nos existences, selon ta promesse, selon ta bénédiction, vers ton appel à œuvrer en ton nom dans le monde. Notre prière, c'est aussi une manière de faire place en nous, aux hommes et aux femmes que nous connaissons, ou pas encore. Ceux qui cherchent des amis, ceux qui ont faim et soif de rencontres, de dialogues, de paroles vraies, nous voulons les accueillir, les bénir et devenir pour eux des vis-à-vis fraternels. ceux qui ont besoin d'aide, d'humanité, de compagnie, de soutien, d'encouragement. Nous voulons être présents et fidèles auprès d'eux, de quelque manière que ce soit. Nous portons particulièrement dans notre prière, avec la CAT, Wang Zuekin, journaliste chinoise, très impliquée en faveur des victimes d'agressions sexuelles et qui est détenue depuis plus d'un mois, sans mandat d'arrêt, sans avocat, sans contact avec sa famille. Nous te prions, Dieu très haut, parce que nous ne voulons pas céder ni nous résigner devant les violences faites aux femmes, aux enfants, aux plus démunis. Accorde-nous le courage et la persévérance dont nous avons besoin. Et nous te remercions pour les signes de vie et d'amitié que nous percevons, que nous recevons avec les jeunes de coexister, avec les communautés qui se rassemblent ici, avec cette fête de l'amitié. Toi qui es au cœur de nos vies, ton nom est au-dessus de tout nom. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que le pain soit en partage sur toutes les tables du monde et que ta parole nourrisse chaque être humain. Donne-nous la force de pardonner comme tu nous pardonnes. Toi qui ne nous laisses jamais seuls face aux tentations du mal et de la mort. À toi, notre Père, le règne de l'amour, la force de l'esprit, la lumière de la parole, pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. Que l'amour de Dieu vous environne. Que la force de Dieu vous habite. Et que la paix de Dieu remplisse vos cœurs et vos pensées. Amen. Nous chanterons le 391 et puis nous rassoirons après.